L'un dans l'autre, l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info local de Radio B. Bonjour Charlotte.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous.
Chaque année, en France, des milliers d'enfants sont victimes de violences, de maltraitances ou de négligences. Derrière ces situations, il y a souvent des parcours complexes où interviennent à la fois les professionnels de santé, la justice, les services de protection de l'enfance et les associations d'aide aux victimes. Pour mieux protéger les mineurs et mieux recueillir leurs paroles, les pouvoirs publics développent depuis plusieurs années des unités d'accueil pédiatrique enfants en danger ou UAPED. Ces structures permettent de réunir dans un même lieu les compétences médicales, psychologiques, sociales et judiciaires nécessaires à l'accompagnement des enfants victimes ou présumés victimes de violences. Dans l'Ain, une nouvelle UAPED voit aujourd'hui le jour grâce à un partenariat entre le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, les institutions concernées et l'AVEMA, l'association d'aide aux victimes déjà engagée depuis de nombreuses années dans l'accompagnement des enfants victimes de violences. Pour comprendre les enjeux de cette nouvelle unité et son fonctionnement, nous recevons aujourd'hui le docteur Dialane Augier, médecin généraliste en charge de l'UAPED.
On la retrouve juste après les brèves.
L'Ain dans l'autre, les brèves.
Huitième édition de la coopérative Jeunesse et Services.
Pour rappel, la CJS, c'est 15 jeunes de 16 à 18 ans qui montent et gèrent leur propre entreprise coopérative le temps de l'été. Avec au programme des chantiers et services créés par les jeunes et vendus aux professionnels et particuliers.
Des apprentissages sur la gestion d'une entreprise, comptabilité, communication, planning, progressivement en autonomie.
Une expérience pour travailler en équipe et prendre des décisions collectives.
Une rémunération basée sur les chantiers réalisés avec une répartition choisie par les coopérants.
Et les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes.
Les prochaines dates à retenir sont le
jeudi 11 juin à 18h, réunion d'information à destination des jeunes et de leurs parents.
Mercredi 17 juin de 14h à 17h, première rencontre des jeunes intéressés à l'occasion d'une après-midi d'intégration.
Et la coopérative Jeunesse et Services se déroulera du 6 juillet au 28 août.
Donnez une seconde vie à vos téléphones.
Grand Bourg Agglomération participe à la grande collecte solidaire de téléphones portables organisée par Écosystème.
Du 1er juin au 31 juillet, les habitants sont invités à déposer leurs téléphones usagés dans l'une des 10 déchetteries du territoire. Les appareils collectés seront offerts à une structure d'Emmaüs pour être reconditionnés ou recyclés.
Grand Bourg Agglomération participe à la collecte solidaire de téléphones portables usagés pour la troisième année consécutive. Pendant les dernières éditions, 1137 téléphones ont été collectés sur le territoire de Grand Bourg Agglomération.
Organisé nationalement par Écosystème, un éco-organisme œuvrant à l'allongement de la durée de vie des batteries, des équipements électriques et électroniques.
Cette opération vise à donner une seconde vie aux téléphones inutilisés, tout en soutenant une démarche solidaire.
Réaménagement de l'avenue des Belges à Bourg-en-Bresse.
Cette avenue va faire l'objet d'un important réaménagement à partir du 4 mai. Objectif, améliorer la sécurité, le confort et le partage de l'espace entre automobilistes, cyclistes et piétons.
Ce projet, élaboré en concertation avec les riverains depuis novembre 2025, prévoit notamment la création de 3 plateaux surélevés, de nouvelles traversées piétonnes, une réorganisation du stationnement et plus de 500 mètres carrés d'espace végétalisé avec la plantation de 23 arbres et arbustes.
Les travaux se dérouleront en 2 phases. D'abord la rénovation des réseaux d'eau jusqu'en juillet, puis les aménagements de voirie jusqu'à l'hiver 2026. Les accès au commerce seront maintenus autant que possible durant le chantier. Les plantations seront réalisées au printemps 2027.
L'un dans l'autre, l'interview.
On parle aujourd'hui de protection de l'enfance et d'un nouveau dispositif qui vient renforcer l'accompagnement des mineurs victimes de violences dans l'Ain. Les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger ont été créées pour offrir aux enfants un lieu unique, sécurisé et adapté, où leur situation peut être évaluée par plusieurs professionnels formés à ces problématiques. L'objectif est notamment d'éviter la multiplication des démarches et des auditions qui peuvent parfois être vécues comme de nouvelles épreuves pour les victimes. Pour nous présenter cette unité et les besoins auxquels elle répond, nous recevons le docteur Dialane Augier. Docteur Augier, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter rapidement à nos auditeurs, s'il vous plaît ?
Oui, avec plaisir. Je suis le docteur Augier, Dialane, mon prénom. Je suis médecin généraliste de formation. Et depuis mes études et la fin de mes études, j'ai axé une partie de ma carrière sur les enfants et la protection de l'enfance, puisque j'ai fait ma thèse sur ce sujet-là, sur le dépistage des enfants en danger en médecine générale. Et puis, je fais de la médecine adulte pour une part de mon activité. Et pour une part, depuis plus d'un an maintenant, je suis le médecin coordonnateur de la future UAPED de l'Ain, qui est en projet à Fléria.
Vous êtes ici pour nous parler de l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, donc l'UAPED. Alors c'est quoi concrètement et pourquoi ça existe maintenant ?
Alors les UAPED, c'est un concept qui a été réfléchi et développé maintenant depuis plus de 20 ans par d'abord l'association La Voix de l'Enfant. Le but premier étant de sécuriser la parole d'un enfant potentiellement victime de violence, de sécuriser sa parole dans un milieu protégé, pédiatrique, dans lequel il puisse à la fois être entendu par les forces de l'ordre dans le cadre de l'enquête, qu'il puisse aussi être accompagné avant, pendant et après par des soins psychiques, des soins médicaux. Donc voilà, les UAPED ont été développés et pensé par la Voix de l'Enfant d'abord, puis repris ensuite par le gouvernement. Et maintenant, chaque département se doit de développer une UAPED.
Donc on entend qu'il y a un vrai travail de coordination entre un système judiciaire et un système de santé ?
Tout à fait, c'est le but aussi de l'UAPED. C'est de coordonner tous les besoins autour de l'enfant, que ce soit les besoins de l'enquête, donc l'audition, qui doit être faite par des forces de l'ordre, des membres de forces de l'ordre formés à l'audition mineure, que ce soit des psychologues autour qui vont accompagner l'enfant, que ce soit des travailleurs sociaux qui vont accompagner la famille dans des potentielles difficultés, par exemple, ou l'enfant, etc., que ce soit médicaux. Donc voilà, l'UAPED a vocation de créer une prise en charge multidisciplinaire centrée sur les besoins de l'enfant autour d'une enquête ou un adressage médical sans enquête, mais où on va venir faire de la prévention, de l'évaluation.
Alors, est-ce que c'est facile de faire dialoguer tous ces milieux ?
C'est un projet ambitieux, nécessaire. Donc, en fait, on se rend compte, quand on travaille dans le milieu de la protection de l'enfance, que le message à véhiculer et le message qui est vrai dans la quasi-totalité des cas, c'est qu'on travaille tous pour le même objectif. Alors, on a tous notre prisme, on a tous nos contraintes liées à notre métier. On a un objectif commun qui nous rassemble, qui est de permettre aux enfants de notre territoire de grandir en sécurité. Et donc, dans chaque département, c'est un projet ambitieux et passionnant, du coup, autour de ce cœur-là qui nous lie.
Comment ça se passe pour vraiment entendre l'enfant ?
C'est important, en fait, que les personnes qui fassent les auditions mineures soient formées. Il y a une formation spécifique que nous, on n'a pas, hein, qui est vraiment pour les policiers, les gendarmes, qui est la technique d'audition mineure qui a toute sa spécificité de la même façon qu'un enfant est très différent d'un adulte, que ce n'est pas un adulte en miniature, qu'il a des besoins, des façons de penser différentes. Eh bien, le protocole d'audition mineure, de la même façon, va venir aborder l'enfant de façon originale et adaptée à ce qu'il est capable de nous renvoyer selon son âge. Et donc, c'est important et on milite aussi pour ça, pour que chaque enfant, quel que soit où il soit sur notre territoire, il soit auditionné avec la même compétence de la personne qui est en face de lui, la même qualité, pour qu'il puisse déposer sa parole de façon la plus optimale possible, puisque le but de l'UAPED et des auditions mineures filmées, enregistrées, avec derrière la vitre sans teint une équipe qui écoute, qui analyse, qui complète, qui voilà, et qui enregistre tout ce qui se passe dans la pièce d'audition. Tout ça a pour but de sécuriser sa parole, mais aussi de lui permettre, une fois que sa parole a été déposée, de reprendre sa vie d'enfant et qu'on ne soit pas obligé à plein de moments de l'instruction de l'enquête, de lui redemander de réexpliquer à nouveau. C'est aussi ça le but de l'UAPED, c'est que la parole elle soit sécurisée, protégée par les enregistrements.
Sur le côté plutôt médical, est-ce que il y a des difficultés aussi spécifiques justement pour pouvoir déceler des preuves de maltraitance ? Et puis il y a aussi la question de maltraitance physique, maltraitance psychologique. Est-ce que tout est pris en compte ?
Alors oui, tout est pris en compte du mieux possible. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a la potentielle maltraitance, c'est quelque chose de très invisible. C'est un sujet à la fois qui est simple pour personne. On aimerait tous ne pas avoir à traiter ce sujet et que ça n'existe pas. Et il faut avoir le courage et aussi les compétences et aussi la sensibilité pour se dire « Ok, ça existe maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, c'est un sujet qui est assez invisible. On a des enfants qui peuvent être gravement maltraités et qui n'ont absolument aucune trace, jamais. Et donc, s'ils ne nous le disent pas ou si nous, on n'a pas été formés spécifiquement à associer nos faisceaux d'arguments qui sont des choses très insidieuses parfois sur les courbes de croissance, sur comment va cet enfant dans son sommeil, dans son alimentation. On n'a pas de signe, comme on dit chez nous, pathognomonique, c'est-à-dire c'est un signe qui nous signe le diagnostic. Si on a ça, ça veut dire ça. Ça n'existe pas pour ce sujet-là. On est toujours sur des choses très insidieuses, sur des dynamiques familiales complexes, avec des parents parfois qui eux-mêmes ont été victimes de violences et qui, dans leur parentalité, sont en difficulté pour ne pas reproduire des choses qu'ils ont eux-mêmes vécues. Et c'est tout ça qu'il faut entendre. C'est pas qu'un enfant, c'est toujours la famille autour, ces parents-là, même si il est entendu et c'est absolument certain. C'est d'abord l'enfant, c'est d'abord ses besoins à lui, c'est lui qui est fragile, c'est lui qui est dépendant des adultes qui gravitent autour de lui. Et il a les parents qu'il a, et donc je pense qu'il faut aussi travailler avec ces parents-là. La deuxième chose, c'est qu'un médecin ne doit jamais et n'est pas enquêteur. Quand on a une suspicion, quelque chose qui nous embête, un enfant qui parle à demi-mot, c'est pas clair, on ne doit pas faire d'enquête. Quand on se préoccupe pour la santé et la sécurité d'un enfant, on a un dispositif qui s'appelle l'information préoccupante. Nous sommes préoccupés, nous faisons une information préoccupante.
Comment on fait un signalement, concrètement ?
Alors, donc, il y a deux voies pour venir dire qu'un enfant nous inquiète. Il y a l'information préoccupante et le signalement. Ce sont deux choses différentes. L'information préoccupante, on a des formulaires au département de l'Ain qui sont très bien faits, qu'on peut suivre et c'est plus facile. L'information préoccupante va être envoyée à la cellule de recueil des informations préoccupantes, la CRIP, qui est un service du département. Et là, on va être sur une enquête derrière sociale, administrative. L'information préoccupante doit, si on peut, la majeure partie du temps, être accompagnée d'une information aux parents en disant « Si on se centre sur les besoins de votre enfant, ça ne va pas. » Le but de l'information préoccupante, ça a été créé pour garder le lien avec les familles en disant « On va venir apporter une aide à ses parents en termes d'éducation, en termes administratifs, assistantes sociales, financiers, n'importe quoi. » Si des parents ferment la porte à toute aide apportée, à toute visite du domicile, etc., on va basculer sur un signalement si on est inquiet, ou là, on a le côté judiciaire qui va venir imposer des choses. On a donc le signalement pénal, on va venir décrire ce qu'on a constaté, ce que l'enfant nous a dit. L'UAPED a aussi vocation, j'ai vocation à répondre à mes confrères et mes consœurs médecins sur est-ce que j'ai le droit de dire ce que j'ai dit ? Je peux apporter des conseils simplement téléphoniques, relire. Si c'est compliqué, pourquoi pas co-signer ? Si on a fait de bonne foi, quand bien même derrière, ça ne porte à rien, on ne pourra jamais être inquiété, même si la famille porte plainte contre nous. Donc là, il faut vraiment se libérer de ce poids-là quand on est signalant. Aucun tribunal ne viendra mettre en prison un médecin parce qu'il a signalé de bonne foi un enfant pour lequel il était inquiet, ça n'existe pas.
10% des enfants en danger potentiel, 1% de signalement par des médecins. Cet écart dit quoi sur notre système de protection de l'enfance ?
Donc déjà, quand on n'est pas très bien formé sur un sujet ou qu'on ne l'a jamais vu, c'est pas facile derrière de faire du dépistage quand on est sur un faisceau d'arguments très insidieux sur le développement de l'enfant. Encore faut-il bien le connaître. Dans ce que vous dites, en gros, il y a 1% qui sont faits par les généralistes, 5% globalement par le service de santé, 25% par l'école. C'est normal que l'école fasse plus de signalements que les médecins, dans le sens où ils les ont sous le nez tous les jours.
Est-ce que, au niveau de l'UAPED, vous pouvez être présent aussi justement pour des enseignants ?
Oui, dans l'UAPED, il y a 3 volets, si je peux le dire ici vite fait. Un volet judiciaire, donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, entourer l'audition mineure et l'enquête pénale autour de cet enfant, de ce mineur. 2, un volet médical qui a vocation, ce que je disais tout à l'heure, à venir entourer la parole de l'enfant de soins psychiques, de soins médicaux. Et le 3e volet, c'est un volet ressources, où l'UAPED est ressources territoriales pour tous les professionnels pour la protection de l'enfance. Moi, je suis d'accord si ce sont des coachs de sport qui m'appellent en disant « ce jeune, en fait, il m'inquiète, il est bizarre, il m'a dit ça, ça, ça ». Un kiné, un psychologue libéral. Donc, on est ressource, moi, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui ont besoin, des professionnels surtout. Même en tant que citoyen, on se doit de protéger un mineur en danger.
Et où commence la violence ?
La violence, elle commence à partir du moment où l'enfant n'est pas respecté en tant que personne, que ce soit dans les choix qui sont pour lui en rapport à son âge, que ce soit évidemment dans une violence verbale avec des insultes, que ce soit du dénigrement, ne pas respecter l'enfant comme s'il était une personne, mais plutôt le considérer comme une extension de soi-même quand on est parent, et donc un peu chosifier cet enfant, ne pas respecter le fait qu'il est un être humain séparé de nous, même si on est ses parents, et qu'il ne nous appartient pas. Bien sûr, c'est nous les parents et on a l'autorité parentale, mais à chaque âge, ses spécificités, et bien sûr, il est dépendant de nous. Mais aussi, en face de ça, il y a une responsabilité de protection, de respect, d'empathie aussi, parce que on va facilement dire à un enfant, par exemple, un enfant qui casse sa petite voiture préférée, et qui pleure comme s'il était désespéré parce qu'il n'a pas d'amygdale cérébrale et qu'à son âge, il ne peut pas gérer petite colère, grande colère, et que quand il est, ou petite tristesse, grande tristesse, et que quand il est triste, il le vit à 2000%. C'est le cerveau de l'enfant qui est fait comme ça, et ça, beaucoup de parents ne le savent pas. Et rien que de savoir ça, ça aide dans notre parentalité. On ne peut pas lui demander d'avoir une petite tristesse alors qu'il a cassé son camion préféré. C'est un enfant qui a ses propres besoins, qui n'est pas un adulte en miniature, qui a sa propre vision de la vie. Mais ça, aussi, en tant que parent, ça s'apprend, et donc on milite aussi avec des collègues pédiatres pour prendre un pas de recul et dire dans la parentalité, c'est pas facile, et nous-mêmes, médecins, pédiatres, qui que ce soit, on a tous à un moment donné été en difficulté dans notre parentalité, venir dire, l'enfant, c'est ça, et le fait d'en savoir plus sur son enfant vient nous aider en tant que parents, donc ça, il faut qu'on le transmette aussi, pour prévenir la violence.
Est-ce que vous avez un mot de la fin, docteur Ogier ?
Dire que les enfants qui sont malheureux, maltraités aujourd'hui, c'est notre société de demain. Ça va remplir les prisons, ça va remplir les gens de soins psychiques, de pathologies. Et se conforte face à ça l'étude ACE, des ACE Adverse Child Experiences, une étude à immense échelle qui montre que si un enfant a vécu plus de 5 situations adversives dans son enfance, accumulées, il perd 20 ans d'espérance de vie. On se doit de travailler sur ce sujet pour demain.
Merci au docteur Dialane Ogier pour ses explications. Vous l'aurez compris, cette nouvelle UAPED doit permettre d'améliorer le repérage, l'évaluation et l'accompagnement des enfants victimes ou présumés victimes de violences grâce à une prise en charge coordonnée entre les professionnels de santé, les services judiciaires et les acteurs de la protection de l'enfance.
Pour rappel, en cas de danger ou de suspicion de danger concernant un enfant, le numéro national 119 Allo Enfance en Danger est accessible gratuitement et 24 heures sur 24.
Et pour en savoir plus sur l'accompagnement des victimes dans l'Ain, vous pouvez consulter le site de l'AVEMA.
Cette interview et les références citées sont à retrouver sur notre site internet radio-b.fr.
Vous écoutez L'Ain dans l'Autre,
le mag d'info locale
sur Radio B. L'Ain dans l'Autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Charlotte.
Merci Perrine et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'info locale.
D'ici là, restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
Bonne semaine à toutes et à tous.
L'Ain dans l'Autre, l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.